Alors, nous sommes tous confrontés à des opinions différentes. Il suffit d'explorer un peu Internet et on trouve des experts sur tout. Si vous avez une opinion sur quelque chose, réjouissez-vous. Il y a sûrement un expert pour vous donner raison. Il y a des aspects utiles, forcément, dans les derniers mois. Moi et ma femme, on a dû racheter tout. Et donc, c'est utile d'avoir les avis sur Amazon pour savoir quel robot utiliser dans la cuisine, lequel acheter. Mais ça a bien sûr des aspects aussi néfastes quand c'est plus sérieux. Il y a quelques années, ma femme et moi avons passé Noël chez une amie et elle était à fond dans les remèdes naturels. Rien de mauvais sur les remèdes naturels, mais elle était à fond. Par exemple, elle prenait l'ouverture, l'aération de l'appartement et la consommation de jus de citron pour guérir de tout, y compris malheureusement du cancer. Et elle nous a montré des fascicules d'experts qui relayaient ses opinions avec leur doctorat, qui dénonçaient une cabale des médecins contre eux, qui voulaient les faire taire. Ils avaient aussi des témoignages de gens qui avaient été guéris par leurs conseils, y compris de cancer. Alors, qui croire ? Est-ce qu'il faut croire le témoignage de ces experts ou est-ce qu'il faut croire la communauté médicale? Est-ce que vraiment cette dernière était en train d'essayer de se protéger? Ou est-ce que c'est ces experts qui, malheureusement, étaient soit dans l'erreur, soit attirés par l'appât du gain? Une petite recherche Internet montrait que ces doctorats, bon, c'était des vrais doctorats, mais pour l'une, c'était un doctorat en littérature, l'autre en génie civil, des beaux diplômes, mais qui, malheureusement, ne les qualifiaient pas pour parler du sujet dont ils traitaient. Alors, quels experts écoutons-nous? Ce matin, c'est le dernier message dans notre série « Faites-vous tester » sur le livre de 1 Jean. Nous avons vu que Jean a écrit cette lettre à une église dans la tourmente. Un groupe spécifiquement a semé la confusion au sein de cette église. Ils se disent chrétiens, mais ils disent ne pas avoir besoin du pardon de Dieu. Ils se disent chrétiens, mais ils s'estiment être au-dessus des commandements de Dieu et ne les respectent pas. Ils se disent chrétiens, mais ils ne montrent pas d'amour les uns envers les autres. Et au cours de sa lettre, Jean nous a proposé une série de tests pour se faire dépister de problèmes dans notre vie chrétienne. Et peut-être qu'un de ces tests s'est révélé positif pour vous. Peut-être c'est le test de l'amour de dimanche dernier qui vous a convaincu comme moi. Alors que faire? Quel remède? Un remède existe-t-il? Eh bien, en bon docteur de l'âme, Jean va diagnostiquer la cause de la maladie ce matin. Il va mettre son doigt sur le moteur fondamental de notre vie chrétienne, sur l'organe qui régit la présence ou l'absence de ses fruits. Parce que tous ces problèmes peuvent se tracer à l'organe de la foi. La foi FOI, pas un problème de foi, comme celui après Noël. Oublier en quoi on croit et oublier pourquoi on croit, c'est la cause des problèmes de cette Église. Perdre de vue le quoi et son pourquoi a occasionné cette Église de se faire balloter par des opinions différentes. Et c'est aussi un problème pour nous, chrétiens du XXIe siècle. Et Jean va nous montrer que la foi en Jésus est une réalité objective, ancrée en ce que Dieu a accompli, et qu'elle nous apporte aujourd'hui, à nous, des bienfaits précieux. Nous allons lire le dernier chapitre de la lettre 1 Jean. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles au chapitre 5 de cette lettre, ou si vous n'avez pas de Bible, tapez 1 Jean 5 dans un moteur de recherche et cliquez sur le premier lien, ça devrait vous amener. Ce matin, voici ce que je voudrais vous montrer dans ce texte, voici le point principal. C'est Dieu qui nous donne la vie éternelle et qui nous garde. Alors marchons ensemble avec assurance dans la lumière. Lisons ensemble 1 Jean 5 et écoutons Dieu lui-même nous parler. Commençons au verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ses commandements ne représentent pas un fardeau puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu. et celui qu'il a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Je parle ici de ceux qui commettent un péché ne conduisant pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché, mais tous les péchés ne conduisent pas jusqu'à la mort. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pèche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. La parole de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, je te remercie du privilège que nous avons de pouvoir lire ta parole ce matin. Merci de t'être révélé, de nous avoir laissé ce témoignage par lequel nous pouvons te connaître. Je te demande maintenant, Seigneur, de me guider dans mes mots, de me protéger d'enseigner des choses fausses et d'ouvrir à tous, Seigneur, nos oreilles, que nous puissions t'entendre nous parler. Nous demandons cela au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alors voici notre feuille de route pour ce matin dans ce message. Nous allons tout d'abord voir que la foi et la vie éternelle que Dieu nous donne sont des réalités objectives ancrées en Dieu. Et cette réalité objective s'accompagne de bienfaits réels pour nous chrétiens aujourd'hui. Nous allons en voir trois. Elle nous garantit que Dieu écoute nos prières. Elle nous garantit la victoire sur le péché. Et elle nous garantit que Dieu nous garde en Christ. Tout d'abord, voyons comment la foi et la vie éternelle que Dieu nous donne sont des réalités objectives. Dans les 13 premiers versets de ce chapitre, la première moitié, Jean veut réorienter ses auditeurs vers des vérités fondamentales qui sont vraiment la fondation de leur vie chrétienne. Il appliquera ensuite ces vérités à leur vie, mais il veut être sûr que la fondation est solide. Il nous indique le thème des 13 premiers versets avec les mots qu'il répète, si vous avez noté. Il va répéter « croire » ou « foi » ou « foi » 6 fois. Et témoignage 8 fois. Il va parler de la foi, et cette foi sera ancrée dans le témoignage de Dieu. Le quoi de la foi qu'est-ce que c'est? Et le pourquoi de la foi? Pourquoi croire à ça et pas à autre chose? D'abord le quoi de la foi, qu'est-ce que c'est? Ça c'est la première question que Jean aborde. Qu'est-ce qui importe dans la foi? Est-ce que c'est le fait de croire en quelque chose? Est-ce que c'est l'intensité avec laquelle on croit? Écoutons ce que dit Jean. Au verset 1, quiconque croit que Jésus est le Messie. Verset 5, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Verset 10, celui qui croit au Fils de Dieu. Verset 10 encore, celui qui ne croit pas à Dieu fait de lui un menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Verset 13, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, clairement, ce qui importe dans la foi, c'est l'objet de notre foi. Ce n'est pas la foi en elle-même. C'est en quoi, ou plutôt en qui, en l'occurrence, on place notre foi. Notre foi en Jésus, le Fils de Dieu. Les faux enseignants qui ont ballotté cette église avaient forcément aussi une foi, peut-être une grande foi, mais une foi en autre chose. Et en fait, c'est le cas pour nous tous, qu'on soit croyant ou pas, qu'on soit religieux ou athée, on place tous notre confiance en quelque chose, notre espoir. Peut-être que c'est notre espoir dans Emmanuel Macron ou la communauté médicale pour nous sortir du Covid une fois pour toutes et nous éviter de finir nos vies sur une table d'hôpital avec des tubes partout. Peut-être qu'on place notre espoir dans des pratiques religieuses. On dit si on prie plusieurs fois par jour, ben on va se rendre agréable à Dieu. C'est peut-être ça votre espoir. Votre espoir est peut-être dans les loisirs, dans les voyages pour nous apporter du bonheur, etc. Et le monde contemporain veut nous dire que, en fait, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous y croyez. Si ça marche pour vous, si c'est bon, c'est pas de problème, c'est ce qui compte. Et Jean, là, veut nous dire, non, non. On peut avoir sincèrement tort. La foi qui sauve, c'est quand on croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est la première chose. La deuxième caractéristique de cette foi, c'est qu'elle est ancrée en Dieu. Ce n'est pas apparent dans nos traductions françaises, mais si vous regardez le verset 1, quand Jean dit « est né de Dieu », c'était au passé. Et donc ça place cette naissance de Dieu en amont de la foi. C'est-à-dire qu'on ne naît pas de Dieu après avoir cru en Jésus. Non, non. On croit en Jésus parce que Dieu nous a fait naître en premier. Ça commence par l'œuvre de Dieu. Cette relation entre foi et naissance de Dieu est tellement importante pour Jean qu'il va la répéter en miroir au verset 4 et 5. Notre foi est le fruit d'un acte de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Cela va bien sûr à contre-courant de la conception populaire de la foi qui voudrait en faire quelque chose de purement subjectif qui vient de nous. Mais la foi en Christ est à la fois profondément personnelle, en effet, quand elle est sincère, mais elle est aussi objective. Elle est donnée par Dieu. Elle est causée par l'action de Dieu en nous, une action qui nous est extérieure. Enfin, la troisième caractéristique de la foi, c'est ce qui l'accompagne. Ça, on en a déjà parlé dans les semaines qui ont passé. Si vous regardez les versets 1 et 2, vous voyez qu'on est né de Dieu, on croit que Jésus est le Messie. Et après, on aime le Père, on aime aussi son enfant, on aime les enfants de Dieu et on respecte les commandements de Dieu. Il y a cette chaîne qui découle de ce que Dieu a fait en nous. Et ce sont des thèmes qui sont très chers à Jean, on en a déjà beaucoup parlé. Mais là, Jean met l'accent ici plutôt sur l'ordre des choses. On est d'abord né de Dieu, puis on croit en Christ, puis on marche dans la lumière. On lutte contre le péché, on s'aime les uns les autres, on respecte les commandements de Dieu. Ma fille Sophie est en CE2, et en CE2, je l'apprends, on commence la grammaire. Et on étudie la phrase déclarative, celle qui énonce un fait. Et dans une phrase comme ça, on commence par le sujet, ça se suit du verbe, et ensuite on a le complément d'objet. On apprend que si on commence par le complément d'objet, alors la phrase ne veut plus rien dire du tout. Et c'est pareil avec la vie chrétienne. L'évangile a une grammaire aussi. Tout commence par l'initiative de Dieu. C'est lui qui nous fait naître de nouveau. C'est le sujet de la vie chrétienne. Ce sujet donne naissance à la foi, ça c'est le verbe, c'est le moteur de notre vie. Et tout cela en découle, tous les fruits de cette foi, marcher dans la lumière. Et le problème, c'est que quand on inverse cette grammaire, eh bien on tombe dans la logique de toutes les religions du monde. Dans toutes ces religions où tout commence par nous, c'est nous qui devons nous rendre agréables à Dieu. Et ça c'est un problème. Et on fait ça qu'on soit religieux, avec la prière, avec les actes de charité, avec les jeûnes. On fait ça même si on n'est pas religieux, avec notre bienveillance, avec notre dévouement à des causes. Tout ça pour nous rendre agréables à Dieu, pour atteindre un idéal qu'on s'est fixé. Seul l'évangile propose une logique différente, une grammaire différente. C'est Dieu qui est le sujet de notre vie chrétienne, qui engendre la foi et le changement de vie qui s'ensuit. Voilà donc trois caractéristiques de la foi que Jean veut clarifier. Ce qui compte, c'est l'objet de notre foi. La foi nous est donnée par Dieu et la foi s'accompagne du fruit d'une vie changée. Avant d'en finir avec le quoi de la foi, Jean veut répondre à deux clarifications sur ce que c'est d'être le Fils de Dieu. D'abord dans les versets 6 à 8. Bon, alors ces versets, ils sont compliqués à comprendre, je vous l'accorde. Mais la plupart des commentateurs s'accordent à dire que Jean ici s'efforce à réfuter des vues qui feraient de Jésus soit un simple homme, soit un simple esprit divin qui serait venu habiter un homme à un moment, puis après il est reparti. Ici, il fait mention de l'eau, qui fait référence au baptême de Jésus. Il fait référence au sang, qui fait référence à la croix de Jésus quand il est mort sur la croix. En gros, les points de départ et de fin de son ministère sur terre. Donc Jean insiste ici sur le fait que Jésus, le Fils de Dieu, c'est bien incarné en homme. Et que ce Dieu incarné est bien mort sur la croix, aussi barbare que ça nous semble. Et c'est cela qu'il entend par fils de Dieu. Il est venu mourir pour nos péchés. Il réfute ainsi ceux qui, comme les faux enseignants, n'acceptaient pas la croix de Jésus, mais enseignaient que Jésus c'est un prophète, c'est un bon enseignant. Peut-être comme eux. Mais c'est certainement pas Dieu, c'est ridicule ça. Il n'est pas mort pour nos péchés, qu'est-ce que c'est que cette baliverne? Ces vues discordantes sur l'identité de Jésus, on les lit, ça date du 1er siècle après Jésus-Christ. Et c'est celles qu'on trouve encore de nos jours, c'est les mêmes. On voit Jésus réduit à un révolutionnaire politique ou à un bon enseignant qui nous enseigne la morale. Ça, c'est les vues humanistes, où il y a des vues religieuses aussi qui font de Jésus seulement un prophète. Que ce soit dans l'islam, pour les mormons ou pour les témoins de Jéhovah. Or, Jean, ici, nous rappelle que l'identité de Jésus, ça ne repose pas sur l'opinion d'hommes et de femmes, tout expert qu'il soit, mais ça repose sur Dieu lui-même. C'est lui qui a témoigné de son Fils. Jean insiste aussi sur l'exclusivité du Fils. Au verset 12, il nous dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Et ici, Jean déclare de façon inéquivoque que la seule façon d'avoir la vie éternelle est en Jésus, c'est le seul chemin. Alors bien sûr, ce n'est pas populaire, que ce soit aujourd'hui, mais on peut se prendre confort au fait que ce n'était pas populaire même quelques décennies après le ministère de Jésus, au 1er siècle. C'est les mêmes choses qui choquent avec l'Évangile, que ce soit là, il y a 2000 ans ou maintenant. Voici donc le quoi de la foi. Croire en Jésus, une foi à la fois personnelle et objective, et qui mène inévitablement à une vie changée. Car c'est Dieu qui œuvre en nous, c'est ça le point. C'est Dieu qui œuvre en nous. Et c'est ce Fils de Dieu, à la fois homme et Dieu, mort pour nos péchés, le seul chemin pour notre salut. Tournons-nous maintenant vers le thème de témoignage, qui est le second thème de cette section, dans les versets 6 à 12, des versets où le mot est répété 8 fois. Alors, après avoir défini le quoi de la foi, bon, c'est bien joli, mais c'est pourquoi croire à ça et pourquoi pas à autre chose, hein? Pourquoi pas croire à ce que les faux enseignants enseignaient dans cette église? Après tout, ils disaient eux aussi d'être détenteurs de la vérité. Et connaître Dieu, ils disaient marcher dans la lumière. Il était bien tentant pour les membres de cette église de les écouter et de se dire « Ah bah, c'est vrai que ça a du sens ce qu'ils disent. Est-ce que c'est vrai ?» Et c'est notre problème aussi. Est-ce que le jus de citron guérit du cancer? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle voix écouter? Eh bien, Jean le dit clairement. Il y a le témoignage des hommes, leurs opinions, leurs théories, leurs philosophies. Et puis, il y a le témoignage de Dieu. Et si Dieu a en effet témoigné, eh bien, quand il faut décider qui croire, il n'y a pas photo, hein. Au verset 9, si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand. Pourquoi? Car c'est le témoignage de Dieu, tout simplement. Il est clair que Jean, là, il est épris par une réalité qui lui fait exploser la tête, répéter la même chose 8 fois. Ça, c'est mauvais en français. Il ne faut pas répéter les mots, sauf quand on est vraiment excité. Il y a vraiment une vérité qui nous chamboule, là. Et c'est le cas pour Jean, ici. Il n'en revient pas. Il veut que nous sachions à quel point ça a changé la donne, la révélation de Dieu. Si ce n'était pas le cas, imaginez. On en serait réduit à parcourir Internet pour connaître Dieu. Quelle horreur! C'est impossible! C'est un peu comme si les personnages du Seigneur des Anneaux, dans leur roman, devaient imaginer qui a écrit leur histoire. Alors, enfin, ils pourraient regarder le lyrisme dans Tom Bombadil et se dire ah, l'auteur, il doit aimer le lyrisme. Ou la nature avec Sylve Barbe. Mais deviner que Tolkien est un Anglais du XXIe siècle, professeur à Oxford, c'est impossible. Il est impossible aux personnages de cette histoire de pouvoir savoir ce qui se passe en dehors du confinement de leur création. La seule possibilité, ce serait si Tolkien s'était écrit lui-même dans l'histoire. Si c'était un personnage à la place de Gandalf, on aurait Tolkien. Ce n'est pas le cas. Et c'est pareil pour nous. La seule façon qu'on puisse connaître notre Créateur, c'est si le Créateur se révèle en nous, s'il s'écrit dans notre histoire. Et la nouvelle qui fait exploser la tête de Jean, c'est que c'est le cas. Dieu s'est révélé à sa création. Il s'est révélé à nous. Imaginez, c'est le Dieu créateur dont on parle, le roi éternel. Il s'est révélé à nous et pas à des groupies qui étaient là en train de le supplier. « Dieu, révèle-toi à nous, on veut te connaître, Dieu !» Non, il s'est révélé à ceux qui sont rebellés contre lui depuis la nuit des temps. Ceux qui lèvent un poing et qui se disent « Dieu, où es-tu dans mes souffrances ?» Et qui en même temps, une fois les souffrances passées, n'y croient plus en ce Dieu. Ceux à qui... refuse de l'adorer, qui adore tout, sauf ce Dieu. Ceux qui insistent dans leur fierté à mériter son approbation. Mais nos propres efforts, ils ne peuvent pas combler cette, ou faire amende pour cette rébellion. Et pourtant, ce Dieu a offert la possibilité à tous de se réconcilier avec lui. Comment ? Verset 11. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Comment l'obtenir ? Verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Et verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. En somme, croire en Jésus, c'est avoir Jésus. Et avoir Jésus, c'est avoir la vie éternelle. C'est aussi simple que cela. Dieu offre à tous la vie éternelle en Jésus, la possibilité d'être en communion avec Dieu. On obtient ça en retournant à Dieu, en plaçant notre confiance en Jésus et en son paiement pour nos péchés qu'il a fait à la croix. Voilà le témoignage de Dieu. Alors bien sûr, la question qui se pose, c'est « Et toi ? Et toi ? Est-ce que tu acceptes ce témoignage ? Est-ce que tu crois le témoignage des hommes ou le témoignage de Dieu ?» C'est la question que Jean nous pose tous ce matin. Dieu nous a laissé ce témoignage noir sur blanc dans la Bible, le best-seller de toute l'humanité, de loin, des milliards et des milliards de copies. Alors, est-ce que tu l'as déjà ouverte ? Ou bien est-ce que tu as décidé de te confier à l'opinion d'autres experts qui t'ont peut-être dit que ça ne vaut pas la peine ? Bon, j'ai, malgré mes 20 ans aux États-Unis, j'ai grandi en France, donc je sais ce que c'est de grandir ici. À part dans des milieux restreints, la Bible et Jésus, ben, ou Dieu, en général, on n'en parle pas. C'est même pas sur le radar. Pas des choses auxquelles on veut penser. On nous apprend que bon, la religion, c'était bon, dans des temps un peu plus obscurs, ça a eu des bienfaits. Mais bon, maintenant, ça a eu aussi des très mauvaises choses, ce qui est vrai. Maintenant, on n'a plus besoin, on s'est affranchi, notre société s'est affranchie de tout cela. Alors, on ne se pose même plus la question. Tout en se croyant si souvent, si sage et si convaincu sur la question. Je parle de moi, là, c'est moi dont je parle. Mais ne te méprends pas, on est tous responsables de nos croyances. Il n'y a pas de terrain neutre, il n'y a pas d'agnosticisme. On ne peut pas à la fois ignorer ce témoignage, le rejeter, et penser que bon, bah, si ce Dieu existe, c'est bon, on sera en bon terme tous les deux. Qu'est-ce qui te donne cette assurance qu'on peut présumer de cette acceptance de Dieu en ta faveur, qu'il te pardonne ? Au verset 12, Jean nous dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Si on croit au témoignage de Dieu vis-à-vis de son Fils, soit on le rejette et on fait de lui un menteur. Il n'y a pas de terrain neutre. On ne pourra pas dire à Dieu quand tu lui feras face, parce que si en effet la Bible est vraie, on lui fera tous face un jour. On ne pourra pas lui dire « Ah mais on m'a dit que tu n'existais pas, c'est pas ma faute. » Non. Dieu a témoigné, nous devons tous rendre compte de notre réponse à son témoignage. Que Dieu nous donne la grâce, même ce matin, de lui faire confiance. Dans ces 12 premiers versets, donc, Jean nous a rappelé que la foi et la vie éternelle, c'est l'œuvre de Dieu, de A à Z. C'est Dieu qui nous fait naître. C'est lui qui nous donne la foi en son Fils. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Alors pourquoi passer tant de temps sur ce sujet ? Eh bien parce que quand on oublie que la foi et la vie éternelle sont l'œuvre de Dieu, et que c'est Dieu qui en a témoigné, eh bien on commence à se faire balloter et emporter par tout vent de doctrine, comme le dit Paul aux Éphésiens. On oublie que c'est Dieu qui a parlé, c'est pas les hommes, c'est pas nous. Jean veut que nous profitions pleinement de la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle il nous écrit. Il dit cela au verset 13, qui est le verset charnière de cette section. « Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Jean ne veut pas que ses enfants passent à côté de cette vie éternelle qui, remarquez-le, est quelque chose qu'ils possèdent maintenant. Vous avez la vie éternelle, présent de l'indicatif. Et justement, c'est sur ces bienfaits, sur ces assurances, ces garanties que Jean va maintenant se tourner dans cette deuxième partie du chapitre. On va aller un peu plus vite, vous inquiétez pas. Jean annonce le thème de cette section en répétant le mot « savoir » 6 fois dans cette section. Jean veut s'assurer que nous savons que la vie éternelle n'est pas future. Ce n'est pas une vérité abstraite qu'on étudie en cellule, en études bibliques, et qui n'a aucune ramification pour notre vie. Non, elle a des ramifications aujourd'hui pour notre vie. Dans la lutte, dans la prière, premièrement, dans la lutte contre le péché, et dans l'assurance de la vie en Christ. Le premier bienfait garanti par la vie éternelle concerne la prière. Regardez les versets 14 et 15. Ce verset est désarmant par sa simplicité. On demande, Dieu nous écoute, et on reçoit ce qu'on a demandé. Point à la ligne, présent de l'indicatif. Voilà. Des questions ? Ah bah, moi j'en ai une, hein. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier et de ne pas recevoir ce que vous demandez ? Bien sûr, hein. On a tous fait l'expérience, et Jean, évidemment, n'est pas naïf sur ce point. La clé, c'est bien sûr le qualificatif conformément à sa volonté. Sa volonté, celle de Dieu, pas la nôtre. Parce que tout comme la vie éternelle est ancrée en Dieu, eh bien nos prières et le fait que Dieu nous donne ce qu'on demande ou pas, ça aussi, c'est ancré en Dieu, pas en nous. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une excellente nouvelle. Parce que ce qui garantit que nos prières soient entendues, exaucées, ce n'est pas mon zèle, c'est pas le fait que j'y crois vraiment quand je prie, hein, ou le fait que j'utilise du vocabulaire théologique compliqué. Non, ce qui compte, c'est Dieu. On ne force pas la main de Dieu. La prière, au contraire, nous entraîne à conformer notre volonté et nos désirs sur ceux de Dieu. Psaume 37,4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices », en gros, conforme tes désirs à ceux de l'Éternel, « et il te donnera ce que ton cœur désire ». Comme l'écrit John Stott, chaque prière est en fait une variation du thème « Que ta volonté soit faite ». Alors bon, c'est bien gentil tout ça, mais est-ce que ça ne rend pas cette promesse inutile? Alors, est-ce que c'est vraiment une promesse? Parce que qui peut deviner ce que Dieu veut? C'est un peu comme si Bill Gates me disait « Damien, je te donne toute ma fortune à condition que tu me dises mon numéro de compte bancaire ». Ah, ça c'est un peu sadique comme promesse, hein. Mais la promesse que Dieu nous fait ici n'est pas sadique. Ça le serait s'il nous demandait de deviner sa volonté secrète. Mais la Bible emploie volonté de Dieu dans différents sens, dans deux sens principaux dans la Bible. L'un fait référence en effet à sa volonté secrète, celle que lui seul connaît. Proverbe 25,2 nous dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses ». Ah, ben si c'était cette volonté qu'on devait deviner, on serait dans de beaux draps. Mais la Bible aussi emploie la volonté de Dieu dans un autre sens, celui, sa volonté révélée dans la Bible, ce qu'il nous a dit. Un de mes versets favoris, c'est 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, qui dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Alors, plus besoin de se poser de questions si vous vous demandez « Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ?» Eh bien, soyez joyeux, priez et soyez reconnaissants. Ça s'applique à tout chrétien, à toute époque. C'est ça que Dieu veut. Si nous prions pour ces choses, on a l'assurance que la puissance de Dieu va nous écouter et répondre à nos prières. Et ça, c'est incroyable. Alors, frères et sœurs, je vous encourage à examiner le contenu de vos prières. Car bien des fois, nous passons notre temps à prier pour des choses qui, franchement, appartiennent à la volonté secrète de Dieu. Par exemple, à des changements de circonstances en notre faveur. Et ça, c'est un sujet pour lequel on n'a pas d'assurance envers Dieu, parce que celui décrète les détails de ce qui se passe dans nos vies. Et si nos prières se résument à ça, c'est dommage. On se prive beaucoup dans la prière. Par contre, si l'on prie que, à travers ces circonstances difficiles, que Dieu nous donne de l'amour, de la paix, de la joie, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, ah ben ça, alors on sait que c'est la volonté de Dieu. Il nous le dit dans Galates 5. Et alors, quand on le prie, on sait que ce sera garanti par Dieu, qu'il va nous donner ce qu'on demande. On voit ça aussi dans la façon dont Paul prie, par exemple, à Éphésiens 6. Lui qui était en prison, rappelez-vous, il prie. « Priez pour moi, afin que je sorte de prison. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. » C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance, comme je dois le faire. Alors, est-ce que ça plaisait à Paul d'être en prison? Probablement pas, parce qu'il voulait en sortir, oui. Mais il ne savait pas si Dieu peut-être le voulait en prison le reste de sa vie. Mais par contre, ce qu'il savait, à coup sûr, c'est que Dieu l'avait fait ambassadeur pour l'évangile. Et donc, c'est pour ça qu'il demande les prières de ses frères et de ses sœurs. Que Dieu nous donne la grâce de prier conformément à sa volonté et se faisant connaître l'assurance qu'il nous donne. Cette assurance dans la prière est un des bienfaits garantis par la vie éternelle en Christ. C'est la première garantie que Jean veut que nous sachions. Dans les versets 16 à 18, Jean nous parle ensuite d'un second bienfait. Il nous dit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. » Verset 16. Jean nous dit ici que nous avons tous un rôle de médiateur et d'intercesseur les uns envers les autres. Certains d'entre vous ont peut-être été troublés pendant la lecture par ce péché qui mène ou qui ne mène pas à la mort. C'était le cas pour moi, donc je voulais juste en dire un mot brièvement. Sans rentrer dans les détails, je serais heureux d'en parler après. Jean parle ici de péché commis par des frères. Et quand Jean il dit « frère », il ne dit pas ça au sens générique, il parle des enfants de Dieu qui sont nés de Dieu, donc des vrais croyants. Or, il l'a déjà dit, par exemple au verset 9 du premier chapitre, « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. » Un croyant peut être pardonné de tout péché. D'autre part, dans cette épître, Jean n'utilise jamais le mot « mort » pour dire « mort physique ». C'est toujours la mort spirituelle qu'il a en tête. Le péché qui mène à la mort fait donc vraisemblablement référence au péché soit de l'incroyance complète, soit des faux enseignants qui refusent de reconnaître Jésus comme fils de Dieu, le sacrifice pour nos péchés. Un individu qui persiste dans ses croyances n'est pas un frère. Il ne peut donc pas bénéficier du pardon de Dieu, puisqu'il rejette le seul moyen par lequel il peut être pardonné. Jean nous parle donc ici d'un frère qui commet un péché. Il nous assure que si nous prions pour lui, Dieu va le restaurer. Alors qu'est-ce qui donne à Jean cette assurance? Et le verset 18 nous donne la clé. Il dit « Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. » Est-ce que vous suivez la logique de Jean? Au verset 14-15 sur la prière, il nous assure que lorsque nous prions conformément à sa volonté, Dieu nous écoute, il nous donne ce qu'on a demandé. Alors qu'en est-il quand un frère né de Dieu pêche? Qu'en est-il de la volonté de Dieu? Bien sûr, Dieu veut qu'il ne pêche pas. Jean ne dit pas ici, bien sûr, que le vrai chrétien ne pêche jamais. Il l'a déjà déclaré à maintes reprises dans d'autres parties de sa lettre. Ici, il parle de vivre d'une façon complaisante et habituelle dans le péché. Et il dit, non, le vrai chrétien a remporté la victoire sur le péché en Christ, parce que Christ l'a remporté pour lui. Et comme c'est Dieu qui nous fait naître, comme c'est son œuvre et ce n'est pas la nôtre, il peut donc affirmer que si quelqu'un est né de Dieu, il ne continuera pas à vivre dans le péché. C'est une victoire accomplie par Dieu, pas nous, et elle nous donne l'assurance de prier pour nos frères et nos sœurs qui combattent le péché. C'est un combat que nous accomplissons au sein de la communauté fraternelle. Et ça c'est une arme que Dieu nous donne pour nous soutenir les uns les autres. Car nul doute, il y aura une lutte, il y aura un combat qui va avoir. Il va y avoir beaucoup de larmes, de confessions, de prières. Mais ce combat, ce ne sera pas un combat solitaire. Jean nous le montre bien ici. C'est un combat que nous accomplissons ensemble. Sarah m'a donné une illustration sur ce sujet cette semaine qui m'a beaucoup aidé. La Bible compare à plusieurs reprises l'Église à l'épouse du Christ. Et elle nous parle d'un grand banquet, un banquet de noces qu'on partagera avec Dieu tous ensemble quand on sera mariés à Christ. Cela fait donc de la vie chrétienne la préparation au mariage. Et dans les mois qui précèdent un mariage, qu'est-ce qu'on fait? On va retaper la maison un petit peu, on va essayer de perdre un peu cette bedaine, on va mettre de l'ordre dans nos finances, on va s'efforcer de mieux manger. On ne fait pas ça parce qu'on se dit « est-ce qu'elle va dire oui à la mairie ou à l'église ?» Non, on sait qu'elle va dire oui. On ne fait pas ça pour mériter notre mariage, on le fait parce qu'elle nous aime et on le sait. Eh bien c'est pareil avec Dieu. La lutte contre le péché, c'est la même chose, ça fait partie de notre préparation pour nos noces avec Christ. Pas pour nous faire accepter par Dieu, ça on est déjà accepté en Christ par la foi, mais simplement parce qu'on aime Dieu. Or, vous le savez bien, on ne se prépare pas à un mariage tout seul. Notre famille, nos amis, ils vont aider à retaper la cuisine avec nous, à nous aider avec notre programme de fitness, à nous aider avec le vin d'honneur, l'organisation de la cérémonie et tout cela. C'est pareil pour nous, on ne part pas en lutte contre le péché tout seul. On y va avec notre Église. On y va avec une armée d'intercesseurs. Vous. Dieu nous pose donc cette question à nous tous. Est-ce que nous nous soucions de l'âme de nos frères et de nos sœurs? Je ne parle pas ici de leur bien matériel, mais de leur âme. Est-ce que c'est au top de nos sujets de prière? Parce que ça l'est pour Jean. Au verset 14-15, il nous a enseigné sur la prière, et juste après, est-ce qu'il pensait, ah, mais c'est prier pour votre sœur qui pêche, ou pour votre frère? Frères et sœurs, Dieu nous donne l'immense privilège de participer à l'édification mutuelle et à son travail de sanctification les uns pour les autres. Et ça, c'est un travail saint. Et cette lutte, elle commence dans nos cellules. Je voulais donc vous donner un défi pour mardi dans les cellules. Je vous invite à penser à un sujet de prière à propos de votre âme et à le partager avec vos frères et sœurs. On a tous des aspects de nos vies où on manque de foi, où on a une bataille avec un péché spécifique. Peut-être que, comme moi, vous avez perdu patience jour après jour avec vos enfants cette semaine. Et ça vous a convaincu qu'il y a quelque chose qui est en train de s'établir dans la façon dont vous vivez et qu'il faut vous en repentir et demander à Dieu de vous changer. Peut-être que vous sentez votre foi, votre amour pour Dieu se refroidir. Peut-être vous sentez-vous esclave d'un désir de plaire aux autres. Quoi que ce soit, je vous invite à vous examiner et à partager un de ces sujets avec vos frères et vos sœurs mardi, afin qu'ils puissent combattre avec vous, à vos côtés. Et Dieu nous a promis de nous donner la vie. Cela nous amène à la conclusion de cette lettre, une rhapsodie sur l'assurance que nous avons en Christ. Jean nous dit au verset 18, « Nous savons que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et que le mauvais ne le touche pas. Tous ceux qui sont nés de Dieu sont hors de portée du malin. Ils ne peuvent pas connaître la mort éternelle. C'est impossible car ils ne sont pas nés d'eux-mêmes, ils sont nés de Dieu. Et même si le monde entier est sous la puissance du mal, comme il le dit au verset 19, nous savons aussi, verset 20, que le Fils de Dieu est venu et nous sommes unis à son Fils. Et parce que nous sommes unis à son Fils, à Christ, le malin ne peut pas nous toucher. Le combat entre le bien et le mal est bien réel, et on en fait l'expérience chaque jour dans notre lutte contre le péché, mais ce n'est pas un combat à armes égales. C'est un combat que Christ a gagné. Et Jésus garde tous ses enfants, quoi qu'il arrive. Jean termine donc sa lettre au verset 21, d'une façon peut-être inhabituelle pour une épître. Il nous dit, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Alors même si à première lecture ça peut paraître un peu abrupt et inhabituel, en fait, quand on le lit dans son contexte, dans le contexte du verset précédent, on voit que « vrai Dieu » est mentionné trois fois. Or, le contraire du vrai Dieu, c'est quoi? C'est une idole. C'est tout enseignement, toute pensée, tout désir, toute chose qui voudrait nous séparer de Christ, nous détourner du vrai Dieu. Jean finit donc sa lettre par un appel à la vigilance sur tout ce qui nous appelle à ne pas vivre dans la lumière, toutes ces idoles qui voudraient nous détourner de Christ et nous éloigner de qui nous sommes en Jésus-Christ. Et vous voyez ici un aspect précieux de la vie chrétienne, et c'est sur ce point que je termine. Quand Dieu nous donne un commandement, il va toujours, en l'occurrence ici, nous garder des idoles, il va toujours pourvoir la grâce nécessaire pour y obéir. Toujours. Dans ce chapitre, Jean s'est efforcé de nous le rappeler. Au verset 1 et 5, nous avons vu que c'est Dieu qui nous fait naître de nouveau. Il nous donne la foi, il nous donne la victoire sur le monde. Au verset 6 à 12, que c'est Dieu qui atteste de la réalité de cette nouvelle vie. Et c'est Dieu qui affirme cela, pas nous. Et au verset 18 et 20, que c'est Dieu qui nous garde du mauvais, qui nous unit à Jésus-Christ. On se demande donc, mais si c'est Dieu qui fait tout, alors nous, il n'y a plus rien à faire. Il semble que Dieu fait tout. Eh bien, c'est ça, la vie chrétienne. C'est avant tout l'œuvre de Dieu. Et c'est pour cela que Jean a écrit cette lettre. Afin que nous sachions que nous avons la vie éternelle. Et que Dieu nous invite à participer dans son œuvre, ayant pourvu à tout ce dont nous avons besoin pour le faire. Alors, si vous avez raté certains tests dans les 4 dernières semaines, ces tests de la foi que Jean nous a proposés, si vous êtes découragé ce matin, réjouissez-vous. Jésus vous garde et vous promet la victoire. Il vous invite à vous confier en lui, l'auteur de votre salut, et à participer à son œuvre dans votre vie et dans celle de vos frères et sœurs. En priant, en luttant contre le péché ensemble, et en nous rappelant les uns les autres que la victoire est acquise en Christ. Frères et sœurs, c'est Dieu qui nous donne la vie éternelle et qui nous garde. Alors, marchons ensemble avec assurance dans la lumière. Prions. Seigneur, nous te demandons que tu nous remplisses de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne de toi et de te plaire entièrement. Accorde-nous pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et de progresser dans la connaissance de Dieu. Accorde-nous d'être fortifiés à tout point de vue par ta puissance glorieuse, afin que nous soyons toujours et avec joie persévérants et patients. Accorde-nous d'exprimer notre reconnaissance à toi, Père, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est toi qui nous as délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Amen.